Nous nous sommes quittés la semaine dernière en nous rappelant que l'abandon et la dépendance dont nous avions fait preuve envers Dieu lors de notre conversion, j'espère que vous vous en souvenez, devaient être les mêmes dans notre marche quotidienne avec lui. Nous nous étions reposés sur une parole de Paul pour affirmer ça. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui ai, je rappelle, qui ai mis les parenthèses, donc conversion, marcher en lui, sanctification, donc marcher avec lui, marcher en lui, devenez comme lui, laissez-le vivre en vous. La base de notre entrée, de notre conversion, donc de notre entrée en Dieu, si je peux dire ça comme ça, c'est justement le fait que nous étions en totale dépendance de lui, prise de conscience absolue de qui il était, de notre besoin de lui. Alors face à cette affirmation, nous pourrions néanmoins ne pas nous sentir très bien. En effet, comment faire pour rester dans cette dépendance ? Et dans cet abandon. Quand je dis rester, je suis gentil. Ça présuppose que nous y sommes et que nous devons essayer de ne pas en sortir. Parce que je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne nous vient pas naturellement d'être dépendant même de Dieu. Alors c'est assez normal puisque tout ce qui concerne Dieu ne fait pas partie de notre nature, de ce que nous sommes naturellement, par essence. Donc je leur dis encore une fois, si vous vous attendez à désirer les choses de Dieu et que cela vienne de vous, vous allez attendre longtemps. Pour la simple et bonne raison que Dieu est en vous, mais ne fait pas partie de vous. Il n'y a pas de mélange entre vous et lui. Ça ne se mélange pas. Il y a votre ancienne nature d'un côté, son esprit de l'autre, mais les deux ne cohabitent, mais ne se mélangent pas. Nous devons donc le laisser prendre de plus en plus de place en nous jusqu'à ce qu'il déploie sa maturité, Paul dira l'image parfaite du Christ, en nous. En fait, nous devrions faire nôtre, je pense, cette magnifique parole de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez quand certains de ses disciples sont venus vers lui pour lui parler de Jésus qu'il venait de baptiser, il a dit de Jésus, « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ». C'est exactement ça que nous devrions apprendre à faire dans nos vies, c'est que nous diminuions et que lui puisse grandir véritablement. Alors, notre chance, parce que si je m'arrête là, c'est un peu plombant quand même, notre chance, c'est que Dieu tient ses promesses et que même si nous avons une fâcheuse tendance à l'oublier, Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Il ne vous demande jamais des choses que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Et Paul le dira également. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors, Dieu nous a donné deux choses, je rappelle ça, une nouvelle disposition, un nouveau cœur, et sa puissance, donc la présence de son esprit. Et l'apôtre ici nous dit que Dieu n'a jamais fourni la puissance d'accomplir sa volonté sans en même temps en faire naître le désir. Et il n'a jamais fait naître le désir de faire sa volonté sans accorder la puissance nécessaire pour l'accomplir. Donc, Dieu communique de façon surnaturelle, parce qu'encore une fois, la présence de Dieu en nous, c'est un peu surnaturel quand même. Hein. Donc, il communique à la fois l'envie de faire sa volonté et la capacité de l'accomplir. Mais, et c'est là que ça commence à foirer un peu pour nous, mais nous devons nous approprier ces deux dons qu'il nous fait par la foi. Croire que c'est vrai, croire que c'est l'héritier des choses. En réfléchissant à ça, en fait, parce que nier la foi avec la marche avec Dieu, enfin tout ça on sait en théorie, mais on a quand même, me semble-t-il, pratiquement du mal. Alors en réfléchissant à ça, il y a une image qui m'est venue, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, comme toutes les images. Imaginez que vous ayez hérité d'un oncle lointain, ou même proche, peu importe, une grosse voiture américaine. Vous voyez, des années 60, là. Enfin, à l'époque, on faisait encore des voitures, deux réservoirs de 120 litres. Vous voyez, vous voulez le prix de l'essence, hein. Il n'y a pas de gilet jaune, je peux le dire, ça va. Bon, mais c'est une grosse bagnole. Alors, on se demande parfois qui a inventé la direction assistée. Ben, les Américains. Pourquoi ? Parce que c'était tout à fait impossible de bouger la direction de ce genre d'engin qui pesait plusieurs tonnes sans direction assistée, avec les petits bras seulement impossible. Maintenant, c'est cette image qui m'est venue. Vous êtes, en tant que chrétien habité par le Saint-Esprit, vous êtes à bord de cette voiture. Vraiment, vous êtes à bord de cette Cadillac de 68. Je dis 68 parce que c'est une Cadillac que possède un de mes potes. Voilà. C'est un énorme bac. Il est plus large que certaines façades de maison. Tant que vous n'avez pas mis le contact, la direction assistée pour bouger le volant, impossible. Vous n'avez pas accès à ça. Donc vous ne pouvez pas bouger ça tout seul. Et c'est bien pour ça que vous avez besoin de la foi que Dieu a placée en vous. Parce que c'est la foi qui va mettre le contact. Tant que vous ne croyez pas à ce que Dieu dit, tant que vous ne le testez pas, tant que vous ne mettez pas le contact de vos vies à ce niveau-là, que vous ne faites pas le pas qui convient dans ce domaine-là, il ne se passera rien. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous savent des choses sur Dieu, connaissent des choses sur Dieu, connaissent même parfois bien sa parole, c'est important, hein, mais ça ne change rien, ou quasi rien, au niveau de leur vie. On va prendre un texte qui est aussi une clé de compréhension. C'est toujours Paul qui parle, hein. J'ai été crucifié avec Christ, donc pas votre ancienne nature, votre ancien homme, tout ce que vous étiez avant de le connaître, tout ça a été crucifié, tout ce qui vous condamnait devant Dieu, tout ça a été crucifié avec Jésus. C'est terminé. Dans un autre texte, Paul dira, l'acte d'accusation qui posait sur nous a été cloué à la croix, c'est fini. Donc j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui, donc le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, ben Paul, il n'est pas devenu un extraterrestre, il n'est pas parti dans les nuages. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, face à ça, je me dis, si c'est vrai, hein, d'accord ? Quand je lis ça, moi, je me dis, théologiquement, je connais, hein, c'est clair, doctrinalement, c'est clair dans ma tête. Mais ça l'est beaucoup moins dans mon cœur, en fait. Est-ce que c'est vraiment le Christ qui vit en moi? Ce que Paul dit, c'est que nous avons une vie à vivre ici-bas. Il ne nous a pas enlevés près de lui à notre conversion, nous sommes d'accord. Hein. Mais nous devons la vivre en nous abandonnant totalement à celui en qui seul nous pouvons placer notre foi, notre confiance, parce qu'il est mort par amour pour nous. C'est ce que Paul dit. Je ne vous demande pas de placer votre foi en lui comme ça, parce que j'ai une lubie pendant la nuit, mais parce qu'il est mort pour vous. En ce qui me, je ne sais pas vous, hein, je ne connais pas votre vie par cœur, mais en ce qui me concerne, le seul à être mort pour moi, à donner sa vie pour moi, c'est lui. Hein. J'ai beaucoup d'amis, à une certaine époque de ma vie, qui seraient morts pour moi, mais ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, à ma connaissance. Ce n'est pas normal, ça, quand même. Mais ils seraient morts tout à fait. Et je, parfois, par reconnaissance, j'aurais peut-être fleuri leur tombe en disant « Merci, hein, Jack, merci de ce que tu as fait pour moi, vraiment, donner ta vie pour moi. » Mais ils seraient morts. Jésus est ressuscité. Donc celui qui a donné sa vie pour nous, par amour pour nous, est vivant. Et il vit aujourd'hui en nous. Donc la confiance que Dieu attend de nous pour nos vies quotidiennes doit donc reposer sur cette conviction profonde que nous savons que Dieu nous a aimés et que tout ce qui est nécessaire pour mener une vie digne de lui est à notre disposition parce qu'il l'a placé en nous. Pourquoi douterions-nous de l'amour et de l'action de quelqu'un qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous? Pourtant, c'est ce que nous faisons, hein, la plupart du temps. Donc la foi que notre Seigneur attend de nous ne repose donc pas sur rien. Il ne nous demande pas quelque chose de surnaturel ou d'extraordinaire. Il nous demande simplement d'être cohérents dans notre réponse de vie par rapport à l'amour dont il a témoigné envers nous. Parce que cette foi qu'il exige de nous, il nous l'a donnée et consolidée en son amour. En fait, il a tout accompli. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il donne ce qu'il ordonne. Autrement dit, soit en pratique, chaque fois que nous pensons que notre foi dépend de nous, on la fait reposer sur notre capacité à faire les choses, sur quoi ? Sur notre ancienne nature. Donc, dans ce cas-là, nous quittons notre dépendance des ressources mises à notre disposition par Dieu pour aller en demander à notre ancienne nature, on demande à cette ancienne nature qui est ennemie de Dieu de nous aider à faire confiance à Dieu qui est son pire ennemi. C'est de la folie furieuse, hein ? Non ? Enfin, si vous venez de comprendre ce que j'ai dit, ce qui n'est pas sûr, hein ? Mais c'est idiot, quoi. Non ? J'ai un champ de bataille avec deux armées, vous êtes le commandant en chef d'une armée, et puis vous allez dans le camp ennemi en disant Tu sais pas m'aider à gagner la bataille, là. Vous imaginez la tête du chef général en chef de l'armée ennemie. Il va dire, c'est merveilleux ce qu'il me demande. Ben, c'est ce qu'on fait. Quand on pense vie en Dieu, on se dit, je vais devoir faire des trucs pour vivre avec Dieu. Eh bien, non. Le seul truc, entre guillemets, qu'on doit faire, apprendre à faire, c'est le laisser faire les choses en nous. Donc, faire l'expérience de cette dépendance radicale nous permettra, par exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, de refléter Christ devant autrui, devant les autres, et de faire avancer son royaume dans le monde. Soyons clairs, si ça ne se bouscule pas à la porte, c'est parce que, en fait, la plupart des gens ne voient pas la présence de Dieu en nous. Le minimum qu'on puisse faire, c'est leur dire. Et après, ils se positionnent autrement, ils vont dire, il est chrétien, elle est chrétienne, hop. Et le regard change, et parfois le regard, il s'effondre parce qu'on n'est pas vraiment tout à fait meilleur que les autres. Alors, par rapport à ça, et c'est un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est pas le seul. Partager sa foi, ça reste un gros problème. Mais l'origine de ce problème est le même de tout ce qu'on vient de dire déjà ce matin. C'est que pour nous, c'est très difficile de partager notre foi. Voire impossible pour certains qui vont s'enterrer derrière tout des excuses, c'est même pas négativement que je le dis, simplement, je sais pas parler, je suis pas assez malin, je sais pas comment expliquer, je sais pas faire une phrase, je sais pas dire un mot, je sais même pas en faire deux, enfin voilà. Je sais pas parler. Ah ouais. Donc t'es pas capable de partager ta foi. Ben non. Ben ça, c'est une super nouvelle. Parce que ça veut dire que tu sais pas compter sur toi. Que tu ne peux pas compter sur toi. C'est exactement ce que Dieu veut. Donc si ça vous semble impossible, par exemple, de partager votre foi, c'est très bien. Parce que là, vous êtes totalement dépendant. Tant que vous espérez que ce n'est pas grâce à vous, à travers votre compétence, que vous allez le faire, ça ne le fera pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que Dieu ne vous appellera jamais à faire des choses que vous pouvez faire sans lui. Donc, concernant le partage de votre foi, par exemple, vous ne pouvez pas parler de lui sans lui. C'est aussi bête que ça. Vous n'êtes pas appelé à faire des choses pour Dieu que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Je vais prendre un bête exemple qui m'est venu, comme parfois les bêtes exemples. Pour vous brosser les dents, j'ai un scoop pour vous, vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu. Vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu pour vous brosser les dents. En fait, vous ne doutez pas de votre capacité de vous brosser les dents. Je pense qu'aucun d'entre nous le matin ne met son dentifrice et se dit « Est-ce que je suis vraiment capable de me brosser les dents ? Seigneur, aide-moi à me brosser les dents. » S'il y en a un de vous qui me dit « Oui, moi j'en suis là, moi je m'aime pour brosser. » Là, je bloque ma grande américaine, je mets le frein à main, j'attends. Là, il va falloir qu'on discute. Donc, vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu pour vous brosser les dents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a tout simplement rien de spirituel là-dedans. Quoique, vous pouvez prendre la bonne habitude de brosser vos dents avec Jésus. Pas pour vous tenir le bras, mais en étant conscient qu'il est là. Ça, c'est très bien. Et ça devient à ce moment-là un acte spirituel. Mais profondément, basiquement, vous n'avez pas besoin de lui pour faire ça. D'accord ? Par contre, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, vous avez besoin de lui pour parler de lui. Donc, si vous arrivez à accomplir ce que Dieu vous demande sans la puissance que Dieu seul peut prodiguer, ça signifie que vous passez à côté de ce que Dieu vous demande vraiment. Car Dieu ne demande d'accomplir uniquement que ce qui requiert son aide. Ça, logiquement, ça doit déjà aider à faire un solide tri. On va prendre un autre texte, un verset dans Romains 15. Parce que je pense qu'il faut mettre des exemples ou des noms sur les choses, parce qu'autrement, je sais que ça peut paraître un peu difficile. Non seulement c'est de la théologie, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. Dans une église, c'est assez normal qu'on fasse un peu de théologie, quand même. Mais la théologie, pour la théologie, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Il faut mettre tout ça en pratique ou ça n'a pas d'importance. Voilà ce que Paul écrit aux Romains. « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. » Il est l'apôtre des non-juifs, pour ceux qui ne sauraient pas, surtout. En fait, ce qu'il dit là, c'est que tout ce qu'il a accompli, et à l'époque c'est déjà pas mal, c'est pas lui qui l'a fait. C'est Christ en lui. Alors on peut se dire, ouais, merci, hein, mais quel est le secret dans tout ça? Tu me dis que tout ce que tu as accompli jusqu'ici, Paul, c'est grâce à Jésus en toi, que toi tu n'as rien fait. Ok, mais comment tu as fait en fait pour ne rien faire? Ça intéresse beaucoup les fainéants ce que je viens de dire là. Comment faire, hein? Je ne citerai pas de nom, hein. L'impact, ce que Paul dit, hein, avec beaucoup d'humilité, l'impact de Paul sur le monde de son temps reposait sur un secret, sa dépendance de Jésus. Notre impact sur le monde actuel dépend du même secret. Ça, c'est la bonne nouvelle avec Dieu, il ne change pas. C'était valable pour lui il y a 2000 ans, c'est valable pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais Paul, c'est un gars qui prend un peu de place dans le Nouveau Testament. C'est les trois quarts des textes de l'Ancien Testament, c'est Paul. Moi, parfois, quand je relis Paul, je me dis, mais j'ai beaucoup d'affection pour Pierre, pour Jean, pour même les évangélistes. Les quatre, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas ça que je dis. Mais objectivement, quelle chance qu'on ait Paul. C'est quand même lui qui a approfondi tout l'enseignement. C'est un immense théologien. Et non seulement c'est un théologien, mais c'est un intellectuel, c'est un érudit. C'est un gars qui a une connaissance, un savoir intellectuel et expérimental invraisemblable. Mais il dit, moi j'ai rien fait. J'ai laissé faire, mais moi j'ai rien fait. Et c'est ça le secret encore une fois. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, Paul, grâce à lui, il a implanté des églises, il a amené à la foi en 30 ans, on estime plus ou moins en 30 ans, la plus grande majorité du monde connu de l'époque. Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais Paul, par exemple, ce n'était pas un grand orateur. C'est le livre des Actes qui le dit, ce n'est pas moi. Quand, lors de son premier voyage missionnaire avec Barnabas, hein, ils sont partis à deux, hein, pour leur premier voyage missionnaire pour implanter les églises et annoncer la parole de Dieu, chaque fois qu'il fallait prêcher, c'était toujours Barnabas qui s'y collait. Mais c'est bien, il reconnaissait les dons des autres. Alors Paul, c'est un grand enseignant, c'est un grand théologien, mais ce n'est pas un grand orateur. C'est comme un fou de se dire que Dieu ne lui a pas donné cette capacité de prêcher comme une bite. Hein, ce n'est pas le Billy Graham de l'époque, quoi. Vraiment pas. J'étais toujours profondément convaincu que cet épisode du livre des Actes où il enseigne la parole de Dieu dans un groupe de maisons, à un moment, il y en a un qui s'endort, il bascule par la fenêtre et il tombe du deuxième étage. Ça, c'est le calvaire de tous les pasteurs, les enfants. Hein. Il y en a un qui s'endort, qui se tue. Quoi. Hein? Non, pas de bol. Hein. Bon, après, il l'a ressuscité, parce que c'est Paul. Mais alors, certains disent, oui, mais il était fatigué. Oui, il était fatigué, sans doute. Hein. Mais qu'est-ce qu'il devait se faire chier, surtout, pour s'endormir? Non. Donc, dire ça et dire que, excuse-moi, Paul, hein, dire que Paul était un peu barbant à certains moments, ben, il n'y a qu'un pas que je saute personnellement allègrement. Mais c'est bien parce que sa volonté de ne dépendre de rien d'autre que le Christ lui vaudra même de voir son apostolat remis en question par de nombreux chrétiens de l'église de Corinthe, par exemple. On a deux épîtres aux Corinthiens, mais en fait, il y en a quatre, on en a deux qui ont, je vais pas vous faire un cours, hein. Il y en a deux qu'on a perdu. Et entre la première et la deuxième épître aux Corinthiens qu'on a ces deux lettres, il y a une visite de Paul à Corinthe. Il y a première lettre, il l'écrit, puis il y va pour distribuer des claques. Il dit, est-ce que vous voulez que j'aille chez vous avec amour ou avec un fouet? Vous rendez compte ce qu'il pouvait se permettre? Parce que Jésus s'exprimait vers lui. Donc Paul y va, il tente de régler les problèmes, puis il repart, et il réapprend que ça, c'est nouveau, et là que son apostolat, que son autorité apostolique est mise en question par les chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'il y a des super apôtres, des grands orateurs dans cette église. Et par rapport à Paul, ces gars, ils dégagent, quoi. Ils envoient. Et Paul, quand il va réécrire cette deuxième lettre, il va se réappuyer sur quoi? Il dit, bien sûr que je suis pas un orateur. Il dit pas comme ça, mais c'est la pensée de Paul. Bien sûr que je suis pas un orateur. Bien sûr que j'ai pas été chez vous en étalant mon savoir, ma connaissance, mon érudition des choses de Dieu. J'y suis allé en ne me reposant que sur un truc. La mort du Christ sur la croix. En étant totalement dépendant de lui et de sa puissance. Et il dira, je pourrais vous parler des moments où j'ai été ravi au 7e siècle devant Dieu lors de Il dit, j'en ai jamais parlé de ça. Parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que l'important, c'est que Dieu est en vous et que vous devez apprendre à le laisser vivre. Autrement dit, ces super apôtres, comme il les appelle avec beaucoup d'ironie dans cette deuxième lettre, ils étaient meilleurs que lui à certains niveaux. Du coup, les chrétiens disaient, oh, ce Paul, quelle cloche, hein, lui. Quand on lui parle, on s'endort. Bon, ça reste problématique quand même s'il y a un orateur dans l'église et que les gens s'endorment. Hein. Quand même. Donc, le Christ que Paul sert, réfléchissez, hein, le Christ que Paul sert au travers de son ministère, mais c'est le Dieu d'amour, et qui manifeste sa puissance, comment? Au travers de son sacrifice d'amour. C'est ce que Paul dit au Corinthiens. Comment voulez-vous que moi j'arrive en dégageant la puissance, que vous l'attendez alors que mon maître à moi, le maximum de puissance qu'il a un jour montré en sa vie, c'est en mourant sur une croix. Donc Paul, qui est son serviteur, ne peut donc pas être quelqu'un qui revendique ses droits et une puissance une puissance autre que celle de son maître crucifié. Il ne peut pas avancer autre chose que ça. Donc Paul dépend entièrement de Jésus et de sa puissance et il ne veut dépendre de rien d'autre. Parce que ça, dire, nous, que nous disions on dépend de Dieu, jusque-là, ce morceau de phrase-là, tout le monde peut la plupart d'entre nous l'ont dit au moins une fois dans leur vie. Hein. « Oh Seigneur, je dépends de toi !» Mais que nous voulions vraiment dépendre uniquement de Dieu, ça, mes amis, je suis un peu plus perplexe, et en partant de ma propre vie déjà. Le secret de la vie de Paul et de tous les autres qui ont dégagé la présence de Dieu dans leur vie, c'est qu'ils voulaient dépendre de Dieu. Ils ne voulaient pas dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre. Et c'est là le secret de la fertilité de son ministère et de sa vie. Donc nous devons vraiment comprendre, comme Paul l'avait fait, que dépendre de Dieu est indispensable pour que nous soyons au bénéfice du travail, j'emploie un grand terme, d'illumination intérieure de l'Esprit-Saint. Le premier boulot de l'Esprit-Saint, c'est de nous rendre conscients que Dieu est là. D'ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, si ma mémoire est bonne, Paul, parce que le premier chapitre, c'est quasi qu'une prière, Paul dit aux Éphésiens, « Je prie pour vous pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre âme, afin que vous preniez conscience, etc. etc. » Donc cette illumination, elle permet simplement de comprendre, par exemple, la parole de Dieu autrement que purement intellectuellement. Tant que vous avez une lecture intellectuelle de la parole de Dieu, ça ne change rien. D'ailleurs, tout ça, vous connaissez ces textes, la plupart d'entre vous connaissez ces textes, pas, je ne vais pas dire par cœur, enfin, faut rester réaliste. Ben, vous les connaissez, vous les avez lus combien de fois? En 20, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, 30 ans de vie chrétienne. 5, 10, 20, 30, 50 fois, 100 fois. Ça change quoi? D.L. Moody, le célèbre évangéliste américain, avait l'habitude de dire, je trouve ça assez comique ce qu'il dit, même si c'est très vrai, la Bible, sans le Saint-Esprit, est comme un cadran solaire éclairé par la lune. Bon, je laisse un peu de temps parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, les citations Yves, faut que je dise à Jésus d'aller allumer mon cerveau à l'étage. Non, c'est vrai. Hein. Et je cite, moi je suis à l'écoute de ce que vous me dites. Hein. Donc je répète doucement, en faisant bien le temps de mettre la Bible sans le Saint-Esprit est comme un cadran solaire éclairé par la lune. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, c'est simplement que quand vous lisez la Bible, le premier truc qu'il faudrait vraiment apprendre à faire, c'est demander à l'Esprit-Saint d'illuminer le texte. Que quelque chose se passe. Pour qu'on ait déjà le désir que Dieu a placé en nous, je vous rappelle, ce désir, il est là, ce désir de faire ce qu'on vient de lire. Vraiment, ce texte est très facile. Si on te frappe sur la joue gauche, tends aussi la droite. Moi, c'est un des premiers sur lesquels je suis tombé et le Saint-Esprit a mis la dose, vraiment. Ou aimez vos ennemis. C'est pas, si tu pouvais vraiment un peu réfléchir au fait. Non, ce sont des impératifs, et même dans le grec. Je suis désolé, même dans le grec. Aimez vos ennemis, ça, point. Comment? Ben, en posant des actes d'amour, en faisant comme si. Permettez-moi de vous poser une petite question plutôt embêtante, je pense. En tout cas, quand moi, elle m'est venue à l'esprit, elle m'a embêté très fort. Si vous deviez, soyez honnête intérieurement, je vous demande pas une réponse, mais essayez d'être honnête avec vous-même, intérieurement. Si vous deviez choisir entre la présence de Jésus à vos côtés, physiquement, « Oh Jésus !» ou celle de l'Esprit dans votre cœur, que choisiriez-vous? Réfléchissez bien, hein, donc le Christ physiquement présent à côté de vous et vous disant quoi faire et comment le faire, ou le Saint-Esprit résidant de façon invisible et surnaturelle au plus profond de votre cœur. Alors, le choix, je pense, le choix n'est pas facile. Parce qu'on n'ose pas dire qu'on préfère voir Jésus. Mais Jésus, qui toutes les 3 secondes en moyenne va vous regarder en disant... Avec les, faut quand même, les 3 ans avec les 12, on ne se rend pas compte, mais il était épuisé à la fin, Jésus. Mais vraiment, hein. De temps en temps, il se lâche, mais combien de temps je vais encore devoir vous supporter, quoi, bande de nuls. Enfin, bande de nuls, ça c'est moi. Mais c'est un peu l'esprit. Donc, ça veut dire ça, hein, quand même, aussi, Jésus, là. Vous pouvez dire, ah, moi, je voudrais Jésus à mes côtés. Ouais, mais... Ah, je... Non, bah, tu vas pas rentrer là. Tu vas pas rentrer en cet endroit, quand même. Tu vas pas rentrer là. Tu peux... Ah, bah, tu vas... hors de question, tu rentres là. Ah, bon, mais j'y rentre pas. Vous rendez compte de votre vie? Donc, entre ça ou l'esprit en vous. Le choix est difficile, c'est vrai. Heureusement, nous n'avons jamais dû faire ce choix. Jésus l'a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il nous a pas laissé le choix. Il a choisi pour nous. Accessoirement, c'est toujours ce que Dieu fait. Hein. Il choisit pour nous. En effet, si je m'en vais, le défenseur ne viendra pas, donc le paraclète, hein, le consolateur, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Apparemment, pour, et il m'a dit, c'est un avantage que je me tire. Et encore aujourd'hui, la plupart des chrétiens se disent, en quoi ça pouvait être un avantage que Jésus soit plus là physiquement? Déjà, tout bêtement, s'il est avec Geoffrey, chez lui à la maison, il peut toujours rêver, il ne sait pas être avec moi. Déjà. Mais ça, vous avez compris. Dans son incarnation, Jésus pouvait être à un seul endroit à la fois. Mais soit. Pour Jésus, en tout cas, le choix était vite fait. Il faut que je m'en aille, comme ça je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. J'ai encore essayé de trouver une image pour étayer ça. Pourquoi est-ce que c'est un avantage? En quoi? Parce que tant qu'on ne se dit pas vraiment, sincèrement, que c'était un avantage qu'il s'en aille et qu'il nous donne l'Esprit à la place, en lui et la place de sa présence physique, tant qu'on ne comprend pas en quoi c'est un avantage et qu'on dit merci, merci Seigneur pour l'Esprit Saint, on n'avancera pas d'un millimètre. Vous connaissez? Voilà. C'est bizarre, avec les textes bibliques, ça réagit beaucoup moins. Hein? Bon, Éden, hasard. Alors imaginez, un instant que vous preniez des leçons de football auprès d'Eden Hazard. Il vous apprend à frapper le ballon, à dribbler, à presser l'adversaire, et il vous explique patiemment toutes les combinaisons tactiques du jeu. Les mauvaises langues diront que tactiquement, c'est peut-être pas lui qui vous demander des conseils, mais soit. Même la tactique qui vous explique. La question reste, après tout ça, est-ce que vous serez capable de jouer au football comme Eden Hazard? Non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Eden Hazard. D'accord? Maintenant, supposez qu'Eden Hazard puisse se glisser en vous, au point que votre corps devienne son enveloppe. Il pourrait dribbler, shooter au goal, tout cela grâce à vous. Ce ne serait pas vous qui joueriez au foot, mais Eden Hazard. Ça vous rappelle rien? Ce n'est plus moi qui vis. Eden Hazard est en vous. Hein. Vous pouvez changer le maillot si ça vous arrange. Vous ne supportez pas Chelsea. Dans la vie chrétienne normale, et normale dans cette normalité, quoi. Ce n'est plus nous qui vivons pour le Christ, c'est le Christ qui vit par nous. Parce que dès que vous dites « Oh, je vis pour le Christ », c'est votre chair qui parle. C'est votre nature, ancienne nature qui parle. Il ne vous demande pas de vivre pour lui, il vous demande de laisser vivre sa vie en vous. Notre corps devient en quelque sorte son vêtement. C'est tout à fait ce que l'Écriture enseigne d'ailleurs. Si bien qu'il aime à travers nous, adore son Père à travers nous, prie à travers nous, témoigne à travers nous et répand la bonne odeur de sa présence à travers nous. Et il opère tout ça par l'Esprit, ce fameux Esprit Saint, que Jésus a dépeint comme quoi. Il a à un moment donné un qualificatif pour qualifier l'esprit. Il l'appelle, il dit, dès que mon esprit sera en vous, des quoi ? Des fleuves d'eau vive sortiront de vous. Quel est l'intérêt d'une eau ? Ben, c'est qu'elle les altère. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, un fleuve en crue ? J'aurais pu en prendre d'autres. Hein. Malheureusement, c'est fort d'actualité, ce genre d'image, maintenant. Hein. Voilà. Alors, si ça fonctionnait normalement, si notre vie chrétienne était normale, elle ressemblerait à ça. Une force irrésistible qui recouvre tout et emporte tout. Ça devrait ressembler à ça. Ma vie, votre vie. Ça, c'est le côté dramatisation. Alors, la bonne nouvelle, je le rappelle, c'est que c'est fait. C'est ce que Jésus dit. Parce que si mon esprit est en vous, ça va donner ça. Si vous le laissez faire. Donc voilà la question. Je termine par ça aujourd'hui. On y répondra à cette question la semaine prochaine. Voilà la question que tout chrétien devrait se poser. Comment faire pour ouvrir les vannes de notre vie afin que ces fameux fleuves d'eau vive puissent s'écouler librement, pour que ça devienne la réalité? Il faudrait être là dimanche prochain pour le savoir. Amen.